Et si nous ouvrions la parole de Dieu ce matin ? Et j'aimerais venir avec vous sur un sujet, je pense, qui va concerner tout le monde, puisque j'aimerais ce matin vous parler tout à nouveau des inquiétudes. Ah, quelqu'un dit « ah ». Qui ici, effectivement, n'a jamais bien eu affaire à l'inquiétude ? Levez la main, s'il vous plaît, afin que nous ayons très rapidement après le message un entretien. Parce que, à mon sens, l'inquiétude est un sujet qui nous concerne tous. Un jour ou l'autre, nous sommes confrontés à l'inquiétude. Or, vous le savez mieux que moi-même, pour l'avoir expérimenté, et parce que je l'ai expérimenté, je peux le dire, lorsque, justement, l'inquiétude nous tient, elle semble ne plus vouloir nous lâcher. Et puis, en plus de ça, elle engendre dans nos cœurs, alors, soit du stress ou de la peur, de l'insécurité, de l'anxiété, voire même des angoisses. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et peut-être même que plusieurs ce matin seraient justement dans l'inquiétude, à cause peut-être de difficultés, à cause d'adversités que vous êtes en train de traverser. Concernant le sujet de l'inquiétude, des hommes ont parlé en long en large sur le sujet de l'inquiétude. Et il y a l'un d'entre eux qui a dit un jour, l'inquiétude est un poison subtil qui distille ses effets au compte-gouttes à longueur de temps jusqu'à l'intoxication. Je pense que c'est quelqu'un qui a certainement dû expérimenter, tout comme nous, l'inquiétude. Il y a un proverbe arabe, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit la chose suivante. Si la fatigue est la ruine du corps, l'inquiétude est la faucille de l'âme. Boah. La Bible, elle aussi, n'est pas en reste concernant le sujet de l'inquiétude. Elle dit quoi ? Elle dit, par exemple, dans le livre des Proverbes, et c'est notre ami Salomon qui s'exprime en ces termes, et qui dit dans Proverbes chapitre 12 et le verset 25, voilà un premier verset d'introduction, ne le cherchez pas, il est juste derrière mon dos, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Et ce matin, j'aimerais bien vous donner une bonne parole concernant le sujet, justement, de l'inquiétude, et qui certainement sera bien réjouir le cœur bien de plusieurs, si ce n'est bien tout le monde. Et cette bonne parole se trouve justement dans ce passage très connu dans l'évangile de Jean, Matthieu chapitre 6, du verset 25 au verset 34. Un passage très connu, c'est Jésus qui enseigne donc ses disciples, et nous lisons ensemble ce bien qu'il leur partage. Matthieu chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 34. Avez-vous trouvé, mes frères et sœurs ? Je vous laisse le temps. On me dit quelquefois je dégaine trop vite. Alors je vous laisse le temps de trouver, voilà, de chercher et trouver. Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34. Nous lisons ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur Jésus, il ne parle jamais en vain. Et j'ai l'impression dans le texte qu'on vient de lire, il a tout dit concernant les inquiétudes. Et justement, dans le passage que nous venons de lire, eh bien, Jésus a révélé à ses disciples quelles sont les principales causes spirituelles, j'ai envie de rajouter, qui vont favoriser l'inquiétude dans nos cœurs. Je répète, Jésus a communiqué à ses disciples, au travers du texte qu'on vient de lire, quelles sont les principales causes spirituelles qui vont favoriser, qui vont encourager, qui vont abonder, faire en sorte que l'inquiétude puisse venir s'installer dans nos cœurs. Et j'en ai relevé trois. Peut-être que la liste n'est pas exhaustive, mais au moins trois causes spirituelles au sujet de l'inquiétude. La première cause, on le voit au travers de ce texte, c'est bien sûr le manque de foi. Il nous faut revenir à Matthieu chapitre 6 et le verset 30. Jésus, à la fin de ce verset, va qualifier ses disciples, ou tout au moins va leur faire un reproche, et va leur dire « gens de peu de foi ». Alors, je ne sais pas si vous avez cette version chez vous, il y a plusieurs versions de la Bible, vous le savez, nous suivons la version Louis II, mais il y a une version qui est la version Chouraki. Et ce terme, gens de peu de foi, il est traduit de la manière suivante, nain de l'adhérence ou nain de la foi. Et tout comme moi, vous le savez, le Seigneur ne nous appelle pas à être des nains de la foi, mais plutôt des géants spirituels au niveau de la foi. C'est pour ça que nous sommes là rassemblés ce matin, pour que notre foi soit fortifiée. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là. Parole de Dieu, d'où l'important de pouvoir la lire, non seulement lorsqu'on nous sommes réunis de manière plénière, mais aussi de manière personnelle, au quotidien, afin que notre foi puisse nous permettre d'être des géants spirituels, alléluia, devant Dieu et surtout devant notre ennemi. Jésus a dit « gens de peu de foi ». C'est certainement, moi à mon sens, le plus grand reproche que Jésus a fait à ses disciples. Et c'est certainement ce même reproche que Jésus pourrait faire aujourd'hui à l'église du 21e siècle. C'est vrai ou c'est pas vrai, frères et sœurs? Là où bien souvent nous faillissons, je dis nous parce que je me sens aussi concerné, c'est au niveau de la foi. Avec les doutes qui, à répétition, attristent le cœur du Seigneur, mais aussi nous empêchent d'entrer dans les promesses, dans les plans que Dieu a pour nous. Et Jésus leur fait un reproche, mais comprenez bien que ce n'est jamais pour écraser ses disciples que Jésus a fait ce reproche. Et s'il nous le fait ce matin, c'est jamais pour nous écraser, pour nous terrasser, mais bien au contraire, pour mettre l'accent sur l'importance pour nous de pouvoir fortifier notre foi. L'importance de réaliser ce matin que la foi, c'est vital, frères et sœurs. Si nous sommes appelés croyants, c'est parce que nous sommes appelés à marcher derrière le Seigneur avec le cœur rempli de foi. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Mais la Bible nous rappelle aussi que nous accédons au salut par quel moyen? L'argent? La piété? Par le moyen de la foi. J'accède à toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu. J'accède à ses promesses et je les vois se réaliser dans ma vie par le moyen de la foi. Je communie de quelle manière? Par le moyen de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est par le moyen de la foi qu'on peut toucher l'invisible, qu'on peut pleinement entrer dans le royaume des cieux, qu'on peut pleinement vivre la vie spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. C'est par la foi que je suis agréable à Dieu. C'est par la foi que ce matin, vous avez été agréable à Dieu. Malgré peut-être les difficultés ou même les inquiétudes qui ont jalonné toute votre semaine dernière, ce matin, vous avez par la foi décidé de venir dans sa maison, le louer, l'adorer. C'est aussi par la foi que je pourrais combattre efficacement l'inquiétude. Quand elle vient frapper à ma porte, quand elle vient me surprendre le matin ou le soir, ou quand j'arrive à la boîte aux lettres et que j'ouvre ce courrier fatal, par la foi, on est capable de pouvoir surmonter toute forme d'inquiétude. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'évangéliste Georges Müller qui a dit un jour à juste titre que le début de l'inquiétude, c'est la fin de la foi. Et le début de la foi, c'est la fin de l'inquiétude. Et je trouvais ça pas mal, c'est vrai. Quand j'ai la foi, l'inquiétude ne s'approche pas. Mais quand ma foi, elle tergiverse, quand ma foi, elle périclite, alors l'inquiétude vient prendre le dessus. C'est certain, le manque de foi en Dieu est une cause profonde, une cause spirituelle de nos différentes inquiétudes. Mais il y a aussi un deuxième point que je peux relever de ce texte qu'on vient de lire. Eh bien, aussi, il y a également une autre cause, c'est aussi le manque de connaissance de qui est Dieu. Ou peut-être même l'oubli de qui est Dieu. Et c'est pour cela que dans le texte que nous venons de lire, Jésus à plusieurs reprises a remis devant les yeux, mais aussi devant les oreilles, et surtout les oreilles du cœur de ses disciples, qui était véritablement le Dieu qui est devenu leur Père Céleste. Par exemple, au verset 32, regardez, on relit ce passage. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Il met en évidence devant ses disciples, en parlant de Jésus, l'omniscience de notre Père Céleste. Vous savez qu'il sait toutes choses ? Vous savez qu'il savait exactement le nombre que nous serions ce matin ? Il sait ce que vous pensez là. Il sait ce qui est dans vos poches. Et il sait même ce que vous allez manger à midi. Il sait tout. Quelquefois, on s'évertue, on se fatigue même, quelquefois, à expliquer à Dieu certaines choses qu'il sait déjà. Et j'ai envie de le dire, quelquefois, nous ne savons pas ce dont nous avons réellement besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et tellement nous ne savons pas vraiment que quelquefois, on a du mal à poser des mots. On a du mal à pouvoir définir ce qui peut être le besoin d'ordre soit physique, spirituel ou voire émotionnel. On est là. Merci Seigneur dans la maison de Dieu, mais on ne sait pas. Il y a ce vide qui est là, il y a ce manque qui est là, il y a ce besoin qui est là, mais on ne sait pas l'exprimer. On ne sait pas le définir. Ne vous inquiétez pas. Dieu, il sait toutes choses. Et puis Jésus leur rappelle aussi à ses disciples la toute-puissance de Dieu quand il est dit au verset 26. Le verset 26, c'est juste toute une prédication. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Premièrement, dans ce verset 26, Dieu fait mention de la toute-puissance de Dieu, qui, sachez-le, ce matin, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a nourri tous les oiseaux de ce monde. Vous le croyez ou pas ? C'est ce qu'il dit là. Les petits passereaux, les petits oiseaux qu'on voit à peine, le Seigneur, il les nourrit, il est tout puissant, de par sa providence, il sait nourrir. Et croyez-moi, il n'y a aucun oiseau qui s'inquiète. De faire des inquiétudes, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, etc. Non. Aucun oiseau fait un burn-out. Dieu prend soin d'eux. La toute-puissance de Dieu. Mais aussi au verset 26, Jésus nous invite à avoir la vision de la foi. Est-ce qu'on peut reprojeter, s'il te plaît, le verset 26 ? Il commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif. Regardez. Et on a besoin de regarder. J'arrive à un âge où on appelle ce qu'on appelle la presbytie. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Mais il me faut un ajustement au niveau de mes lunettes pour bien regarder. Et sur le plan spirituel, on a besoin aussi de regarder, mais de la bonne manière. Trop souvent, frères et sœurs, on regarde aux inquiétudes. Et malheureusement, au détriment du regard qu'on doit porter sur notre Dieu qui est tout-puissant. La Bible dit, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, « Ne promène pas des regards inquiets. » Je ne l'ai pas mis sur la liste des versets, mais dans Ésaïe chapitre 41, je crois le verset 10, il nous a dit « Ne promène pas des regards inquiets. » Et trop souvent, nous promenons des regards inquiets sur ce qui est fâcheux, sur ce qui n'a pas lieu d'être, parce que chaque jour suffit sa peine. Ne crains rien. Car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Mais on a plutôt besoin de promener des regards, non pas inquiets, mais fortifiants, sur l'œuvre de Dieu, sur tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, mais regardez ce que j'ai créé autour de vous. Et tout cela parle de mon œuvre, de ma toute-puissance, de ce que je suis capable de pouvoir faire. promenons nos regards sur les œuvres de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé, qui a été quelque part le remède, l'antidote pour notre ami Job, dans son épreuve. Et croyez-moi, même si le texte ne le dit pas de manière claire et nette, il a connu des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais devenir ? Même sa femme, à un moment donné, a un discours, et d'ailleurs dès le départ, ben, maudit Dieu et meurt, mais j'ai l'impression qu'il était seul dans son épreuve. Oui, ce n'est pas l'impression, c'est qu'il était seul. Et croyez-moi qu'il pensait, il était inquiet, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et il a fallu qu'à un moment donné, Dieu intervienne et lui dit, regarde. Regarde l'hippopotame, regarde le crocodile. On a des yeux, mais on ne voit pas, a dit Jésus un jour à ses disciples. Il dit, regardez, déjà là, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On a besoin de voir, mais avec les yeux, alléluia, spirituels que Dieu veut nous donner. Ayons les yeux spirituels qui savent voir Dieu tel qu'il est, et dans toute sa puissance, mais aussi dans toute sa gloire. Et puis pour revenir au verset 26, Matthieu chapitre 6 et le verset 26, peut-être une dernière remarque. Jésus nous rappelle que nous avons de la valeur à ses yeux. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ils ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ce n'est pas un scoop ce matin, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de la foi pour le croire, quoique on a plus de valeur que les petits moineaux. Vous savez, je me rends compte que le Seigneur a créé tout ce qui nous entoure en 6 jours. Mais j'ai l'impression qu'il a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est justement le sixième jour qu'il a, puisqu'il a installé l'habitacle, tout ce qu'il fallait pour accueillir la plus grande et la plus belle de ses créations, il a façonné l'homme, et je précise, et la femme, à sa ressemblance. Ce qui n'est pas le cas pour tout le reste de la création. C'est pour ça que nous sommes spéciales, c'est pour ça que tout l'enjeu est sur nous, c'est pour ça que le diable, comme Jésus lui-même, désire notre approche. Mais nous nous tournons vers le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oui, nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Et d'ailleurs, le Seigneur nous l'a montré. Au cœur même de ce message, il me faut rappeler l'amour que Dieu a manifesté au travers du sacrifice de son fils Jésus. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a accepté de mourir pour nous. Quelle preuve d'amour plus grande nous souhaiterions avoir. Jésus a dit un jour à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus a donné sa vie pour des impies que nous étions, pour des pécheurs que nous étions. Jésus sur la croix avait toutes les raisons du monde pour sortir de cette croix. Il pouvait le faire par plusieurs façons, mais volontairement il restait sous cette croix parce qu'il m'aimait, parce qu'il vous aimait. Parce qu'il était en train de nous expliquer que nous avions de la valeur à ses yeux. L'apôtre Paul rappelle ce passage de Romains chapitre 8, verset 32. Vous l'avez déjà lu certainement, ce passage. L'apôtre Paul dit la chose suivante. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, parlant de Dieu le Père, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous ne croyons pas à l'amour infini de Dieu à notre égard, alors nous aurons beaucoup de difficultés, mais vraiment beaucoup de difficultés à triompher des inquiétudes qui pourraient nous agresser au quotidien. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais quand on sait qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, quand on sait que Dieu a un amour infini, éternel à notre égard, frères et sœurs, on dort sous nos deux oreilles. Et si on avait une troisième oreille, on aurait dormi sous nos trois oreilles. Parce que le sommeil du juste, il est doux, il est paisible. C'est certainement, je l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est une réalité, mais entendre les choses, c'est une chose. Après les mettre en pratique, c'est là où les choses peuvent changer. Mais c'est clair, lorsque nous lisons, lorsque nous méditons la Bible, notre vision de Dieu change. Elle s'ajuste, elle s'affine. Notre vision de qui est Dieu va pouvoir pleinement grandir. Notre foi va être fortifiée et nous aurons peut-être même plus de facilité à lui faire pleinement confiance. Un passage que j'aime beaucoup, quand je l'ai découvert, je l'ai enregistré au plus profond, j'ai envie de dire gravé sur mon cœur, psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Mais dans la version Bible français courant, il est dit la chose suivante. Qui compte sur toi ceux qui savent qui tu es. Car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu ? Est-ce que tu sais qui est celui qui est venu croiser ta route ? Qui est celui qui est venu un jour te sauver ? Est-ce que tu sais, eh bien, celui qui marche à tes côtés ? Est-ce que tu sais celui qui t'amène, qui t'accompagne tout le long de la journée ? Et qui, même lorsque tu fermes tes paupières sur ton lit, eh bien, qui est constamment là à veiller sur toi ? Tout cela, c'est à nous d'y répondre. Alors voyons en tout cas une dernière cause spirituelle qui peut permettre l'inquiétude d'opérer dans nos cœurs. On a vu, je répète, eh bien, premièrement, on a vu le manque de foi. Voilà une cause spirituelle qui peut nous empêcher, qui peut permettre à l'inquiétude de grandir dans nos cœurs. On a vu le manque de connaissance de qui est Dieu. Il y a peut-être une dernière cause que l'on retrouve dans le texte qu'on vient de lire et qui pourrait aussi permettre à l'inquiétude d'opérer dans notre cœur. Et cette dernière cause, elle rejoint un petit peu eh bien, le thème de cette année, puisque vous savez que le thème de cette année pour cette église Istres, c'est « Que ton règne vienne ». J'espère que vous avez tous lu cette information, parce que Dieu m'a dit de pouvoir l'inscrire sur le pan de ce mur. Et justement, nous le voyons au travers toujours de ce passage, Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Jésus qui dit, à qui veut bien l'entendre et qui nous dit ce matin, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Une autre version, la version Semeur, exprime ce même verset de la manière suivante. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Or, trop souvent, c'est le règne des inquiétudes, excusez-moi l'expression, c'est le règne des inquiétudes qui prend le dessus. Le matin, même pas fini de pleinement se lever, que déjà on est là, qu'est-ce qu'on va faire, ceci, cela, on court, etc. Le règne des inquiétudes qui domine sur nos cœurs. Parce que peut-être nous avons donné trop d'importance à des choses qui restent secondaires. Je ne dis pas des choses eh bien, qui soient négligeables. Mais quelle est la priorité des priorités ? Il y a une chose qui est prioritaire. Celle qui consiste à chercher Dieu. Comme on l'a lu. Celle qui consiste à chercher son règne, le règne de Dieu et sa justice. Et je l'ai dit dimanche dernier, pour que eh bien, pleinement Dieu règne sur nos vies, il faut qu'il est toujours la première, mais je dis bien la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Et on va y travailler tout au long de cette année. Au travers de tous les messages, Dieu veut nous inviter à pouvoir l'inviter comme roi, parce qu'il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a le droit de regard sur nos vies. Nous lui appartenons et nous avons besoin de nous tenir devant le roi, même lorsque nous le servons. Nous avons besoin à bien de pouvoir pleinement le servir comme il se doit. Parce que dans le service pour Dieu, on peut aussi avoir des inquiétudes. Est-ce que vous savez qu'on peut être passablement inquiet lorsqu'on sert Dieu ? Eh bien, parce que peut-être nous sommes affairés à toutes sortes d'activités au détriment de ce qui est essentiel, je l'ai dit, donc le fait de chercher Dieu, mais le fait aussi de chercher son règne. Et on a l'exemple, un peu comme Marthe, qui lorsqu'elle a vu Jésus entrer eh bien, chez elle, et on aurait fait pareil. Hein. Elle a voulu mettre le paquet. Et je la vois courir de la cuisine au séjour, du séjour eh bien, donc à la réserve. Elle voulait faire le top du top. Et béni soit Dieu. Eh bien, quand on veut faire de la qualité eh bien, pour notre Seigneur, il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre des Psaumes. Mon œuvre est pour le roi. Quand on réalise ces choses-là, peut-être un jour on partagera sur ce thème. Mon œuvre est pour le roi. Quand vous savez pour qui vous servez, eh bien, votre manière de pouvoir servir eh bien, va complètement changer. D'ailleurs, même j'ai envie de le dire, si physiquement, dimanche après dimanche, Jésus serait présent là physiquement, frères et sœurs, on aurait d'autres attitudes. On se battrait pour louer le Seigneur. On se battrait pour l'adorer. Parce que chanter, louer le Seigneur, c'est déjà le servir. Marthe était très affairée à tout préparer pour bien recevoir Jésus. Et Jésus lui a dit ce que je propose de lire ensemble, Luc chapitre 10, les versets 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Et il répète une deuxième fois. Comme quoi, peut-être une première fois, Dieu nous appelle, mais on n'entend pas. On est là dans notre course folle. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Tiens, c'est à propos de ce que nous partageons. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie avait compris à cet instant-là qu'il y avait même plus important de pouvoir préparer le repas qui allait honorer le maître. Elle avait compris une dimension plus spirituelle, plus profonde, celle qui consistait à se placer au pied du Seigneur et apprendre à écouter la voix de Dieu. J'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté, « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. » Et si vous voulez une vie, une année 2020 réussite, eh bien, il nous faut eh bien, chercher cette place de choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le prochain jeûne que nous allons vivre, c'est aussi pour rechercher cette place de choix. Pour, avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, essayer eh bien, de recentrer nos vies sur la personne de Jésus. Nous avons besoin de reconsidérer les choses. Trop de choses ont pris le dessus, frères et sœurs, sur cette place de choix qui revient à notre Seigneur. Amen ou pas amen? Où est-ce que je suis en train de parler? Je nous pose la question, quelle est la priorité dans nos vies? Est-ce que c'est nos inquiétudes ou est-ce que c'est Dieu? Et je crois que cette question, chacun doit y répondre d'une manière personnelle. Dieu doit être notre préoccupation première. Et en obéissant à cette règle, Jésus nous fait la promesse que toute chose nous sera donnée en plus. Alors on arrête de s'agiter parce que notre Papa Céleste, notre Père Céleste va prendre soin de nous. C'est quelque chose que j'ai compris, même quand j'étais étudiant. Plus vous mettez Dieu en avant, plus vous le servez, lui s'occupe à bien de vos affaires. Mais seuls ceux qui ont compris ces choses, seuls ceux qui acceptent d'entrer dans cette dimension de foi, pourront vivre ces choses. Je ne dis pas plus. Terminons peut-être par une question pertinente, une question concrète. On a vu trois causes spirituelles qui pourraient permettre eh bien, l'inquiétude de prendre le dessus sur nos vies. Il est important aussi de se poser la question, mais comment bannir l'inquiétude? Tiens, finalement, comment combattre cette inquiétude qui vient? Et je l'ai dit, peut-être certaines personnes sont dans l'inquiétude et n'ont même pas pu louer le Seigneur ce matin, tellement ils sont inquiets et ils pensent à cette chose-là qui les travaille, qui les turlubine. Comment bannir l'inquiétude? Je vais être très simple ce matin. La Bible nous exhorte déjà à bannir l'inquiétude. Est-ce que vous le saviez ça? Il y a un texte dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 54, et le verset 14. Il nous est dit la chose suivante. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Mais Dieu dit à son peuple, par l'intermédiaire de son prophète, bannis l'inquiétude. Et s'il nous demande de bannir l'inquiétude, c'est qu'on a cette possibilité de faire le choix, soit d'inviter l'inquiétude, enfin inviter, le laisser entrer, soit le laisser à la porte et dire, écoute, va chercher quelqu'un d'autre, mais avec moi, on n'a pas à faire. Alors comment bannir l'inquiétude de nos vies? Eh bien, premièrement, en nous approchant de Dieu, en cherchant Dieu, on vient de le voir précédemment, et on le cherche par, entre autres par le moyen de la prière. Vous connaissez ce passage, Philippiens chapitre 4 et le verset 6, un texte qu'on pourrait peut-être même apprendre par cœur. Philippiens chapitre 4 et le verset 6, est-ce qu'on l'a? Ne vous inquiétez de, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications, avec, bien sûr, toujours des actions de grâce. Beaucoup de remerciements. Beaucoup d'actions de grâce. Seigneur, je te dis merci. Même si je ne comprends pas tout, Seigneur, je te dis merci. Mais il fait mention ici de communiquer, d'entrer en communication avec pas n'importe qui, pas seulement le Dieu créateur de toutes choses, mais notre Père avant tout. Et lui exposer notre cause. Partager avec lui nos soucis, nos besoins. On l'a vu tout à l'heure, il connaît toutes choses. Et c'est la prière qui nous permet d'entrer en contact, en communion avec Dieu notre Père. Lorsque je prie, je fais un acte de foi. Et c'est sûr, Dieu écoute nos prières et il sait parfaitement les exaucer. Nous avons pratiquement tous vécu, alléluia, cette réalité. Un autre passage, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. Il nous est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dans la version grecque, la version originelle de ce texte, le mot souci, on peut le remplacer par inquiétude. C'est le même mot. Déchargez-vous sur lui de tous vos inquiétudes, car lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend soin de vous. Il y a une autre version, la version parole vivante que j'aime aussi également. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut la voir, la version parole, voilà. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a appris, excusez-moi, en charge. Une fois pour toutes. C'est marrant, j'aime bien ce terme, une fois pour toutes. Au fond, on se décharge, et quand le culte est fini, on reprend notre sac, et on repart avec, en attendant le prochain culte. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Et là aussi, j'aime bien, il vous a pris en charge, Dieu nous a pris en charge. Ce n'est pas seulement le bois de la croix que Jésus a pris en charge sur son épaule. C'est nos souffrances, c'est nos douleurs, c'est nos maladies. C'est tout ce qui, eh bien, t'attriste, mon frère, ma soeur, ce matin. Ce sont tes luttes, ce sont tes combats, ce sont tes péchés. Ce sont tes iniquités. Toutes ces choses, Jésus a bien l'a endossé sur le bois de la croix. Voilà ce que nous rappelle Ésaïe au chapitre 53. Alors, ayons toujours recours à la prière. Et revendiquons, alléluia, cette grâce qui est la nôtre, de pouvoir bien pleinement nous décharger sur lui, afin de trouver secours en retour bien dans tous nos besoins. Donc par le moyen de la prière, en recherchant Dieu, en persévérant, quelquefois on fait ces petites prières très courtes, tout ça, Seigneur, bon, de toute façon, si ça ne marche pas, ben ça voilà, mais c'est clair que ça ne peut pas faire du mal. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. C'est cette prière quelquefois persévérante que Dieu attend de nous. Quelquefois, le Seigneur, il nous exhorte avant même qu'on dise Amen. Quelquefois, il a même anticipé. Oh mince, c'était la prière que je voulais formuler, Dieu m'a exaucé. C'est vrai, hein? Mais il y a des moments, le Seigneur, il veut qu'on attende, qu'on persévère et qu'on apprenne à persévérer dans la prière. Donc par le moyen de la prière, nous pouvons bien bannir l'inquiétude, en tout cas combattre cette inquiétude et la refouler aux portes de notre cœur. Et puis il y a un deuxième point, je vais terminer par cela, bien par la confiance que nous plaçons en Dieu et en ses promesses, parce que ça va de pair. La prière sans foi n'a aucune efficacité. Il y a plusieurs milliers de promesses dans la Bible. À nous de les découvrir, à nous de les vivre, à nous de nous les approprier. Et permettez-moi de vous en citer quelques-unes, au moins une, allez, tiens. Psaume chapitre 37 et le verset 5. Remets ton destin aux mains du Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Version Louis II, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et qu'est-ce qu'il fera ? Il agira. Dieu agira, ça c'est certain, c'est sûr. Alors le moment, l'instant, ça c'est son affaire. Il est souverain, il est notre roi. Mais à partir du moment où nous nous recommandons à Dieu, à partir du moment où nous mettons notre confiance, notre foi en lui, il fait la promesse, il agira. Vous savez, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Quelquefois on peut se trouver dans des difficultés, dans des épreuves, dans des adversités, on ne comprend pas ni les tenants ni les aboutissants. Mais par contre, en gardant une totale confiance en notre Dieu tout-puissant. Il fera toujours, mais toujours, concourir toutes choses à notre bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, en conclusion, c'est sûr et certain, nous serons amenés encore et encore à vivre l'inquiétude, d'une manière ou d'une autre. Inquiétude plus ou moins grande, plus ou moins profonde. Mais nous venons de voir que lorsque l'inquiétude vient nous assaillir, nous pouvons avoir recours à Dieu notre Père Céleste et nous approcher de lui devant le trône de la grâce et implorer sa grâce par le biais de la prière, mais aussi cette prière formulée avec foi. Dieu, le même Dieu qui prend soin des oiseaux, le même Dieu qui a revêtu tous ces lys des champs, ces magnifiques fleurs, sera également à plus forte raison prendre soin de ceux de celles qui ont choisi de lui faire confiance. Frères et sœurs, il faut le croire ces choses. mais aussi à nous de les vivre, afin que nous soyons toujours plus que vainqueurs sur toutes nos inquiétudes. Prions le Seigneur ensemble. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Oui, Seigneur, donne-nous à ressembler à Marie. Donne-nous, mon Dieu, la mentalité, l'esprit, Seigneur, de Marie, Seigneur, cette grâce finalement qu'elle a reçue à cet instant. Peut-être avait-elle commencé avec sa sœur Marthe de commencer à mettre tout en place. Mais poussée au plus profond de son cœur par le Saint-Esprit, à coup sûr, petit à petit, elle s'est littéralement jetée devant son Sauveur, mais aussi également devant son Seigneur. Que ce soit notre attitude, afin que nous ne perdions pas de temps dans des inquiétudes inutiles, afin que nous soyons point, Seigneur Père mon Dieu, à focaliser sur des choses secondaires, mais qu'au contraire, nous puissions nous rappeler que tu es à la porte et que tu reviens bientôt. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes ce privilège de pouvoir préparer notre éternité, car si la vie ici-bas est courte, mon Dieu, l'éternité sera bien longue. Seigneur, fais-nous cette grâce, réveille nos cœurs, ouvre nos yeux. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Et Seigneur, je te prie d'intervenir pour tous ceux et celles qui sont dans l'inquiétude ce matin, tous ceux et celles qui sont tracassés. Seigneur, c'est le propre de l'homme, tu le sais. Et jamais tu as voulu nous reprocher ou nous accuser ce matin. Mais par amour, tu as voulu, Seigneur Père, nous apporter tout ce qui allait contribuer à nous donner à être plus que vainqueurs devant l'inquiétude. Alors interviens pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, mon Dieu, tu vois, Seigneur, ces inquiétudes qui pourraient même pour certains les empêcher de dormir. Pose ta bonne main. Seigneur, lorsque nous nous confions en toi, Seigneur, tu nous envahis par ta paix, une paix surnaturelle qui est capable de nous affranchir, Seigneur, de ces flèches, quelquefois même de l'ennemi qui essaye, Seigneur, mon Dieu, de nous troubler. Au nom de Jésus, pose ta bonne main. Passe dans les rangs, Seigneur. Apporte ton baume, guéris. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. À toi toute la gloire. Amen.